en partenariat avec Dirigeants Chrétiens, le magazine de réflexion des acteurs de l'économie.
Cœur de métier. Un grand témoin nous parle du lien entre sa foi et son travail.
Une émission proposée et présentée par Olivier Jay et Inès de Varenne.
Bonjour, bonjour Inès.
Bonjour.
Bonjour Xavier Guilloux. Alors Xavier Guilloux, vous êtes un personnage un peu atypique, mais c'est aussi un peu atypique à la fois parmi les gens que nous recevons, mais même en tant que tel, puisque vous êtes un ancien espion.
Non. Je rectifie tout de suite. Il faut faire la différence entre un officier de renseignement qui sert son pays et un espion qui théoriquement trahit une cause pour quelqu'un d'autre.
Alors, on va en parler plus longuement. Vous avez été 10 ans dans les services secrets. Et c'est assez nouveau que des anciens des services secrets racontent un peu ce qu'ils ont fait, ou disent en tout cas déjà qu'ils l'ont été. Et puis, vous avez travaillé dans le risque, la sécurité pour des grandes entreprises. Et puis, vous êtes maintenant un spécialiste de la gestion des risques, des crises. Vous avez publié plusieurs livres, La fin du risque zéro, Voyage au cœur d'une implosion. Ça, c'était l'Argentine. C'était une implosion financière.
Non, l'implosion globale, parce que elle ne s'est pas limitée uniquement à un problème financier.
Hein. Et puis, quand ONG et PDG osent, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce monde de l'humanitaire ou des ONG que tout le monde découvre aujourd'hui, étaient à peu près de l'ordre de 2000 dans les années 80, ils sont 200 000 aujourd'hui.
Et 200 000 organisations?
Organisations, répertoriées au niveau des Nations Unies, et qui interviennent sur de multiples fronts. Et aujourd'hui, on l'a vu notamment avec le tsunami, ce monde-là devient un acteur privilégié dans le traitement des crises. Et les entreprises qui ont bien perçu que les États aujourd'hui prenez un peu des distances par rapport à certaines gestions de crise, se sont rapprochés des ONG pour mettre en place des initiatives assez audacieuses sur le terrain. Le tsunami, notamment sur l'Asie du Sud, a été la meilleure illustration de ce rapprochement entre le monde humanitaire et le monde des entreprises.
C'est-à-dire que plus le monde se globalise, plus on a des grandes organisations régionales, plus ce sont des petites organisations qui remplissent des rôles...
Non,
pratique,
je crois qu'on a changé de script. Il y a 20 ans, nous étions sur des choses qui étaient assez bien calées. Il y avait des grandes utopies, il y avait un affrontement bipolaire. Donc, je veux dire, le cadre général était assez clair. Et les États savaient gérer les dysfonctionnements, je dirais, entre les uns et les autres. Depuis 15 ans, 10-15 ans, les choses ont changé. Hein. On n'est plus du tout dans ces logiques d'utopie. Il n'y a plus de référentiel. Il y en a qui sont en surpuissance comme les États-Unis. Il y en a d'autres qui se recherchent un petit peu comme l'Europe. Et le reste du monde aujourd'hui est entré dans des turbulences extrêmes. Les États sont pas du tout à l'aise avec ces turbulences.
Vous voulez dire que le monde était plus facile quand
plus
il y avait
d'un hier,
côté les
beaucoup
bons, les méchants,
ouais,
le communisme et les autres.
Oui, beaucoup plus facile. J'ai connu cette période-là. Hein. À l'époque, comme vous l'avez signalé, j'étais dans le monde du renseignement.
Ça, on va en reparler. On en reparlera tout à l'heure.
Oui, enfin, j'étais dans le monde du renseignement. Donc là, je veux dire, on avait des codages qui étaient très précis. On savait prévenir, je dirais, un certain nombre de crises en amont, les traiter. On savait les gérer.
Surtout aujourd'hui, les crises ne sont plus seulement des crises politiques ou elles sont
beaucoup plus complexes. Moi, j'ai vu émerger ça à partir de Beyrouth. Je dirais que déjà la notion de guerre a changé. Alors, c'est plus du tout les guerres à la napoléonienne qui se situent dans des grandes plaines ou le désert des Tartares où on attend l'ennemi sur une ligne bien précise. Et on joue Force à Gagne. Non, aujourd'hui, ça se passe dans des milieux qui sont des grandes villes, des grandes plateformes logistiques. On prend les populations en otage. Vous avez tout de suite 1 million, 2 millions de personnes qui sont très déstabilisées par...
C'est quand même en septembre.
Ça commençait déjà bien avant. Le choc du 11 septembre, c'est parce que c'est venu chez nous. Mais moi, j'ai connu, si vous voulez, ce dérapage il y a 10-15 ans déjà.
Où ça?
À Beyrouth, ça a commencé au Liban, ça a commencé en Afghanistan. Et puis après, la ligne de front s'est rapprochée avec les Balkans, avec ce qui s'est passé en Algérie, etc. Et aujourd'hui, ce sont nos sanctuaires qui sont touchés. Le problème, c'est que nos États ne sont pas du tout à l'aise avec, je dirais, les grammaires de ces crises-là. Et c'est oui, parce qu'ils ne sont pas à l'aise qu'ils confient.
Le Liban et les Balkans, c'était déjà très compliqué, mais c'était des batailles physiques classiques.
Ah non, pas du tout. Je veux dire, sur le
Alors
terrain...
Alors le terrorisme du 11 septembre... Oui, mais il y avait un terrain. Le 11 septembre, il n'y a plus de terrain.
Vous savez, ça peut-être surprendre vos auditeurs, mais les discussions que j'ai eues avec un certain nombre de protagonistes qui géraient le Liban il y a 20 ans sont les mêmes que j'ai eues il y a 10 ans à Sarajevo. Et ce sont quasiment aussi aujourd'hui les mêmes que nous avons sur nos propres sanctuaires avec un certain nombre de problèmes de fond.
Qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que vous pouvez dire plus précisément? Parce que vous dites les protagonistes, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ceux qui ont à gérer les crises sur le terrain, ceux qui se trouvent en première ligne et qui ont toujours été considérés un petit peu comme des marginaux, je dirais, par aussi bien au niveau de l'opinion publique que par les décideurs. Vous savez, jusqu'à présent, on a toujours confié la sécurité collective de nos pays à des logiques un peu sacrales, hein, l'arme nucléaire, la mobilisation générale, etc. Et on a confié à des marginaux, des gens qui travaillent dans le secret ou qui travaillent dans ce qu'on appelle les opérations spéciales aujourd'hui, le soin de traiter les dysfonctionnements périphériques. Or, ces dysfonctionnements périphériques aujourd'hui, dans la règle des 80-20, sont en train de s'inverser. Ils deviennent la base de notre fonctionnement quotidien. On le voit bien avec la problématique du terrorisme aujourd'hui. La problématique du terrorisme, c'est plus du tout marginal. Et quand, en plus de ça, vous avez des réseaux qui sont capables aujourd'hui d'utiliser nos propres réseaux de vie comme armes de destruction massive...
Qu'est-ce que vous avez, nos réseaux de vie?
Quand vous utilisez un train, quand vous utilisez des lignes aériennes, quand vous utilisez, ou vous pouvez très bien utiliser demain, des réseaux électroniques, des réseaux informatiques. Vous créez une panne, par exemple, sur les réseaux informatiques, je peux vous garantir que tout le monde va s'apercevoir de la vulnérabilité de nos systèmes de vie.
Une question qui a un sens tout... particulier sur Radio Notre-Dame. Où sont les ennemis aujourd'hui?
Parce que quand on... Alors, on aime bien avoir un ennemi.
Ben justement, c'est ce qui rend la situation d'aujourd'hui moins confortable, c'est que quand il y avait le communisme, c'était facile pour un certain nombre d'États de dire voilà où est l'ennemi.
Je crois qu'aujourd'hui, la situation est beaucoup plus complexe que ça. C'est facile de prendre par exemple le monde de l'islam comme étant l'ennemi le plus visible ou le plus apparent.
En tout cas, les terroristes, eux, ils ont des ennemis.
Oui, ils s'en réclament, ça c'est clair. Mais vous avez d'autres formes de déstabilisation qui sont moins guerrières, a priori, qui peuvent être tout aussi dangereuses par rapport à notre style de vie ou à nos intérêts aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple le mode de fonctionnement des Chinois ou des Indiens aujourd'hui sur le plan économique ou sur le plan financier, je peux vous garantir que c'est aussi déstabilisant que Al-Qaïda sur le fond.
Alors moi, Xavier Guillou, je m'interroge sur le titre d'un de vos livres qu'Olivier a cité, et que je n'ai malheureusement pas lu, « La fin du risque zéro ». Parce que le risque zéro, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais.
Non, non. Non, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, je l'espère.
En dépit de tous les experts qu'on peut... je suis frappée quand on voit des grandes crises, de voir le nombre d'experts qu'on dépêche et qui ont travaillé soi-disant avant, qui n'ont rien empêché du tout d'ailleurs. Et après la crise, alors là, on dépêche toutes sortes d'experts, mais au final, ça n'empêche rien, ça n'existe pas le risque zéro.
Non, le risque zéro est une aberration. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. C'est un oxymore en plus. Vous ne pouvez pas. Ce sont deux mots qui ne peuvent pas être liés et que. Je dirais, le politique a un peu instrumentalisé en utilisant les experts pour pouvoir garantir aux populations, si vous voulez, une espèce d'assurance, pseudo-assurance sur leur vie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus, que le discours du tout est sous contrôle, jour après jour, tombe.
Alors c'est quoi? C'est du pipeau? On fait semblant de rassurer les gens?
Vous savez, on sort de plusieurs décennies où, que ce soit sur le plan de la sécurité internationale ou de nos modes de vie de tous les jours, on a garanti à nos populations qu'il ne se passerait plus rien. Que tout était sous contrôle, que, par exemple, sur le plan international, ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, c'est une énorme étuve où Et derrière, une espèce d'équilibre de la terreur entre nous, on a interdit aux autres de bouger et on s'est...
Oui, mais vous pouvez difficilement dire que c'était une illusion. Il y a quand même eu la paix en Europe.
Oui, mais c'est une paix qui a été assumée par quelques-uns et profitable à beaucoup. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faut que l'ensemble des de nos populations assument de nouvelles configurations, de nouveaux environnements. Et ce ne peut plus être assumé par quelques-uns. Oui. Nous sommes arrivés en limite, en butée au niveau de nos systèmes.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir re-responsabiliser nos sociétés sur un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, puisqu'on a parlé de la sécurité internationale, c'est qu'on ne peut plus garantir à nos populations aujourd'hui que tout est sous contrôle. Et qu'il suffit d'avoir une petite bombe nucléaire ou d'avoir quelques systèmes de sécurité collectifs pour avoir l'assurance qu'on ne nous touchera pas. Nous sommes dans le même train que les autres puissances occidentales. Et nous serons aussi chahutés, sinon plus, parce qu'on est moins préparés, que ceux qui aujourd'hui sont apparemment ciblés. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur le fond de l'expertise qui est alignée, soit je vois avec la grippe aviaire ou avec d'autres sujets qui sont des sujets vitaux quand même, qui touchent à des logiques existentielles, toutes les garanties qu'on a pu donner sur le plan scientifique, par exemple, de la non-transgression entre les chaînes du vivant, enfin, ce que j'ai entendu moi il y a quelques années, tout ça est en train de tomber aussi. Ça veut dire aussi qu'il va falloir réapprendre à vivre avec des risques naturels. Et ne plus se confiner, le terme est à la mode en ce moment, ne plus se confiner dans une espèce de cocon. Il faut réapprendre à vivre avec les logiques simples de la vie, quoi. Je dirais même que, comme dit Jean-François Deniaux, que j'aime bien, il dit « vivre, c'est survivre ». Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir à réapprendre ce que sont les règles de la survivance.
Pourquoi aujourd'hui particulièrement ? Vous pensez qu'on sort d'une période où
je pense qu'on sort d'une période qui est totalement atypique. Ce qui s'est passé depuis la Seconde Guerre mondiale est, dans l'histoire, assez rare. D'avoir réussi à faire en sorte que la vieille Europe, et le monde occidental au sens large, avec les États-Unis et autres, se soit affranchi de toute confrontation, de toute contrainte existentielle, dans l'histoire, c'est assez rare.
Je comprends pas. En quoi vous pouvez dire que l'Europe s'est affranchie d'une confrontation existentielle ? Est-ce que vous pouvez rendre ça plus précis ?
Vous savez, ça fait depuis plus d'un demi-siècle que l'Europe n'a pas connu de guerre.
Tant mieux.
Oui. J'ai servi dans ce domaine-là et je sais exactement ce que coûte, si vous voulez, l'engagement de certains pour garantir à une collectivité.
Vos propos, vous semblez le regretter.
Je ne le regrette pas. Je pense que ça a atrophié un peu nos sociétés. Je pense que nos sociétés, si vous voulez, se sont progressivement refermées sur ce confort. Et n'ont plus tellement le sens des réalités aujourd'hui. Et elles sont en train de se prendre des réalités en pleine figure. Elles sont en train de se retrouvent confrontées, si vous voulez, du jour au lendemain. C'était un petit peu le cas des Américains avec le 11 septembre. Qu'on coule leur bateau en mer d'Oman ou qu'on s'attaque à leur ambassade à l'extérieur, c'était pas un problème, mais qu'on s'attaque à leur sanctuaire à l'intérieur, alors oui, c'était inadmissible, c'était intolérable, c'était impensable, inconcevable.
Mais ça l'est.
Maintenant, mais ça l'est sur tous les fronts. Ça ne l'est pas uniquement que sur le front, si vous voulez, de la sécurité intérieure. Regardez l'affaire Katrina, par exemple, pour reprendre le cas des Américains. Ils s'étaient tous... réunis dans l'idée que de toute façon il n'y aurait pas des cyclones de plus de force 2 ou force 3. Quoi. Ils sont pris à force 5.
On va continuer à parler de ces risques, ces nouveaux risques ou résurgence d'anciens risques, c'est une question, après un morceau musical que vous avez choisi, Xavier Guilloux.
Radio Notre-Dame.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? you're pretty, baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
De métier, Olivier G. Inès de Warren, nous sommes avec Xavier Guillou et nous écoutions Norah Jones, The Long Way Home. Alors, nous sommes sur le long way, le long chemin de Xavier Guillou. Long, pas si long que ça, hein. C'est à peine 50 ans.
Pour un demi-siècle.
Voilà. Ouais, enfin, c'est 50 ans seulement. Parcours qui vous a amené à côtoyer le risque et dont vous êtes aujourd'hui un spécialiste, Xavier Guillou, puisque vous avez été notamment 10 ans dans les services secrets, et puis les services secrets, on ne les quitte jamais, je crois. Donc après, vous avez été dans les grandes entreprises, mais en faisant de temps en temps des missions. Quand même, quand vous étiez chez Hachette, Schneider, continuez. Et puis maintenant, vous êtes consultant, spécialiste du risque, et vous ne croyez pas au risque zéro.
Non.
Donc, mais c'est même plus, vous étiez même plus radical que ça avant Norah Jones, puisque vous nous expliquiez qu'au fond, on sortait de 50 ans d'illusion, en gros, ou 40 ans, pendant lesquels on avait cru qu'on pouvait supprimer le risque dans une société.
Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui font le nécessaire pour expliquer à nos populations qu'on va éliminer le risque.
Ben, ils sont, j'allais dire, ils sont payés pour ça.
Oui.
Et ils ont tort ?
Oui, parce que la réalité est différente et que je pense que c'est aller dans ce sens-là, c'est cultiver une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de nos populations. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire aux Français, il faut dire aux Européens, voire même de façon plus large aux Occidentaux, qu'on va être confronté à des situations qui vont sortir des cadres, qui seront hors cadre, comme je le dis souvent à des dirigeants d'entreprise. Et avec des franchissements de seuil qui vont être assez radicaux et même assez rapides, que ce soit au niveau de la sécurité internationale ou même au niveau de nos vies de tous les jours. Et il faut s'éduquer, à ces franchissements de seuil. On ne peut pas rester, si vous voulez, dans le niveau de confort intellectuel, de passivité, d'indolence dans lequel nous avons vécu au cours de ces dernières décennies.
Alors, vous êtes un spécialiste, donc c'est vous qui savez, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que si
je ne sais pas, j'ai une intuition dans ce domaine-là.
Oui, mais si on dit pas, si on dit il n'y a pas de risque, tout va bien. Mais si on est un prophète de malheur, comment on...
Généralement, on termine mal. Hein.
Voilà. Voilà.
Non, mais il y a quand même un intermédiaire, c'est de ne pas laisser croire aux gens que la sécurité, le confort est un dû.
Oui, mais dans nos sociétés, malheureusement, c'est devenu un droit. C'est devenu
droit.
Un droit. Et regardez ce qui se passe avec aujourd'hui avec les pandémies, enfin toute l'agitation autour des pandémies. Enfin, nos sociétés, si vous voulez, s'enferment dans cette logique de droit, alors qu'aujourd'hui, elles devraient plutôt rentrer dans d'autres approches qui sont des approches de responsabilisation.
Mais par exemple, alors prenons un exemple, puisque sur la grippe aviaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque vous dites on s'agite, on
d'abord,
fait croire
c'est pas une,
que...
D'abord, aujourd'hui, on n'est pas dans une logique de grippe aviaire, on est dans une logique d'épizootie animale, ce qui est quand même très différent. Donc je trouve que l'agitation actuelle des... Moi, c'est mon opinion, hein, mais l'agitation actuelle, si vous voulez, des autorités est grave dans ce domaine-là, parce qu'elle le fait monter des seuils, si vous voulez, de précautions administratives et politiques, qui déresponsabilise les populations par rapport, si vous voulez, au traitement de ce problème de santé.
Grave parce que très excessive.
Beaucoup trop excessif. Enfin, moi, je trouve que c'est devenu du délire. C'est devenu
délire. Comment le savez-vous ? Je dis de comment le savez-vous ? Parce que personne ne sait aujourd'hui.
Non, mais c'est facile, si vous voulez, c'est facile aujourd'hui d'agiter, si vous voulez, la population autour d'un risque statistique. Moi, je peux à tout moment vous créer des effets de panique en utilisant des lois statistiques. Or, aujourd'hui, sur cette affaire-là, les pandémies sont des vrais problèmes. Hein. Ce sont des vrais problèmes de santé. Ils ont toujours été des vrais problèmes de santé. Si je pars du principe que vous avez la transgression entre la chaîne animale et la chaîne du vivant, et à l'intérieur de la chaîne du vivant, vous avez transmission du virus, et que la loi statistique est comme ça, est exponentiel, c'est évident que je peux créer une peur, si vous voulez, et à cultiver cette peur, l'instrumentaliser à mon profit. Donc je crois qu'il faut être très très prudent vis-à-vis de ces jeux-là, parce que ce sont des jeux qui peuvent être dramatiques à moyen terme. Parce que vous allez agiter la population une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis la cinquième, ce sera une vraie crise, et la population sera complètement décalée par rapport, si vous voulez, à aux pratiques qu'il faudra mettre en œuvre à ce moment-là.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ces sociétés qui vont de peur en peur ? Comment vous analysez ça ?
Je crois que nos sociétés, si vous voulez... D'abord, si ces peurs ont une certaine réalité, c'est parce que sur le fond, nos sociétés ont peur de la mort. Elles la rejettent. Alors ça peut remonter à très très loin... Mais je crois que, si vous voulez, depuis plusieurs décennies, elle la rejette très très fortement parce qu'elle il y a quelque part, si vous voulez, au-delà de l'idéal, de la réalité, il y a une perte de sens. Je vous parlais de Beyrouth tout à l'heure, je vous parlais de Sarajevo, je vous parlais d'autres situations. C'est pas tellement la problématique guerrière qui est importante dans ces symboles. C'est que ces différentes points de fixation, de tension que nous avons eu à gérer au cours des dernières décennies, ont démarré sur des pertes de sens.
Des pertes de sens.
Ouais. Les élites, ceux qui étaient aux commandes, n'ont pas su définir une ligne d'horizon pour leur collectivité, les collectivités pour lesquelles ils étaient engagés sur des schémas, j'irais de responsabilité locale ou de responsabilité politique beaucoup plus large, et ont laissé dériver les systèmes en guerre fratricide.
À quel moment ça a dérivé ?
Pour moi, ça a dérivé dans les années 80, 70-80.
Et vous savez dater, vous savez analyser un peu le phénomène ?
Je pense que nos sociétés, notamment occidentales, se sont enfermées dans une dérive matérialiste qui progressivement a fait en sorte que les populations s'éloignent d'un certain nombre de grandes questions, des questions qui sont un peu vitales, des questions qui sont un peu existentielles. Et puis les politiques ont derrière cette dérive matérialiste ont essayé de conforter les populations sur une sur une dérive de société de plus en plus confortable, de plus en plus garantie. Et on demande aux experts de garantir aux sociétés que tout va être conforme et tout fonctionnera sans problème. Et puis, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et ça s'écroule. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec l'Argentine. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec un certain nombre de pays. Vous avez des implosions de système. C'est-à-dire que les gens ne vont pas aller revendiquer quelque chose. Non, non, ça s'écroule sur soi-même. C'est un risque majeur pour
L'Argentine, ce n'était pas la première fois, en plus.
Non, mais ça devrait nous faire réfléchir en France, en tout cas.
Et il faut que les systèmes s'effondrent pour qu'ils renaissent. Justement, si on continue sur l'exemple de l'Argentine, il y a une certaine renaissance de l'Argentine.
À condition de savoir faire son deuil d'un certain nombre de faux-semblants ou de faux problèmes. L'Argentine, pour prendre son cas, ne se redressera que si elle accepte de ne plus être la 8e puissance du monde qu'elle était au début du 20e siècle.
Et la France ?
La France a tous les syndromes de l'Argentine aujourd'hui. Elle ne se redressera que si nous sommes capables de revoir nos fondamentaux en termes de pouvoir et de puissance.
Ça, c'est la France sur un plan collectif.
Oui, mais les Français ont besoin d'avoir une dimension un peu sacrale. Et la dimension gaulienne, la dimension du père, est importante. Elle garantit aux Français une apparence de puissance.
Mais vous voulez dire que cette dérive, notamment pour la France, mais elle vient de la tête ou est-ce que c'est la population ?
Non, elle est collective. Elle est collective. Parce qu'on peut reporter sur les élites beaucoup de défauts. Et ils en ont, hein. Je peux vous garantir qu'en France, ils en ont pas mal. Mais il y a un jeu pervers entre les élites et la population.
On a les élites qu'on mérite.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que les Français se satisfont de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et qu'il y a une co-responsabilité.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour
que tout le monde se réveille ?
Et alors, comment on fait pour se réveiller tout le monde, pour se réveiller tous ensemble ?
Vous savez, la France est dans une situation un peu singulière aujourd'hui. Hein. Moi, je me suis beaucoup battu pour mon pays et pour les intérêts de mon pays et pour tout ce qu'il représente hein, sur le plan de l'histoire civilisationnelle, etc. Mais aujourd'hui, on est quelque part entre le syndrome argentin, sur le plan économique, social, la rupture de confiance entre les élites, les populations, le départ de nos jeunes, l'argent de ceux qui sont un peu des entrepreneurs et autres qui vont à l'extérieur. On est entre cette situation-là, la situation yougoslave, c'est la mort du père, quelque part. C'est la fin d'une situation un peu atypique, comme l'était Tito, un non-alignement.
De Gaulle, ça fait longtemps.
Oui, mais on vit avec cette illusion, comme les Argentins, comme les Yougoslaves. Et ça nous rassure d'une certaine manière. Et puis, avec ce qui s'est passé avec les émeutes, ça c'est mon analyse personnelle, mais on a aussi un petit peu du Beyrouth. Les émeutes du mois de novembre, qui sont un signal très fort.
Donc on a à la fois Beyrouth, la Yougoslavie...
On est quelque part au milieu de tout ça. Voilà. Vous savez, c'est comme les marins qui sont au milieu de trois mers. On ne sait pas quel est le souffle.
Oui, mais alors, quel est le souffle qui peut souffler contre ce mouvement ? C'est quoi ?
Une
c'est
crise de conscience.
Un homme providentiel ? C'est une crise profonde ? Encore plus profonde ?
Vous savez, l'homme providentiel...
Oui, mais alors donc...
S'il est tout seul, il n'ira pas très loin. Donc je pense que c'est... Je pense qu'il faudra qu'on passe par une crise profonde.
On n'y est pas encore, alors ?
Non, parce qu'on est, protégé par l'Europe, par l'euro, sur le plan monétaire et sur le plan financier. On est protégé par toute une instrumentalisation juridique, administrative, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce domaine-là, et qui nous donne l'illusion que tout système tient. Et puis on est aussi protégé par notre propre lâcheté collective. Parce que personne n'a envie que, sur le fond, finalement, ça change. Hein, je veux dire.
Mais Xavier Guillot, vous êtes un peu, vous savez, comme les anciens combattants ou les personnes âgées, autrefois, on disait...
Ah oui, j'en suis.
C'est 50 ans, écoutez, arrêtez. Ces personnes âgées qui disaient, ah, ces jeunes, ils se tiennent mal, il leur faudrait une bonne guerre pour leur apprendre à se tenir.
Je pense qu'il nous faut une bonne crise pour qu'on se secoue un petit peu. Ah, je dis les choses telles qu'elles sont. Je pense que, de toute façon, elle arrivera à un moment ou à un autre. Elle n'arrivera peut-être pas par l'intérieur parce qu'il y a une résistance très très forte, aussi bien des élites que de la population, pour ne pas aller, si vous voulez, à l'essentiel. Mais tous les ingrédients sont réunis à l'extérieur pour que de toute façon on soit à un moment ou un autre sérieusement chahuté et qu'on soit obligé de remettre les pendules à l'heure, quoi. Et qu'on soit obligé de se remettre sur des logiques de responsabilisation fortes sur notre destin et sur notre cheminement collectif.
Comment vous le voyez, cette logique?
Vous avez plein de scénarios. Alors là, si on rentre sur les scénarios, vous en avez autant que vous voulez.
Oui, je ne parle pas du scénario de crise, parce que ça,
non,
malheureusement...
Non, là, il n'y en a aucun qui se produit généralement quand on les a prévus.
Mais c'est le scénario de la Renaissance, et c'est ça qui est plus intéressant. Alors, c'est comment on se ressaisit, si on est dans votre logique, comment on sort d'une situation de crise, comment on retrouve du sens, puisque vous en parliez tout à l'heure en disant que c'était une crise du sens.
Ben écoutez, je rentre là de la Louisiane, où j'ai fait avec d'autres opérateurs, un certain nombre de grands opérateurs de grands vitaux français, derrière EDF, là on a fait le retour d'expérience de Katrina. Et là j'ai vu, c'est le plus grand désastre que j'ai vu en 30 ans. Plus de 100 km de côtes détruites, 250 000 maisons complètement anéanties. Et des centaines de milliers de personnes, si vous voulez, qui sont dans une logique de traumatisme très aigu. Et c'est amusant parce que quand j'écoute les diagnostics qui sont faits en France et qui sont très mortifères par rapport à cette situation-là, tout le monde part du principe que la vie n'est pas possible après. Et j'étais au moment du carnaval, et ils avaient intitulé ça « Rebirth »,« Renaître ». Et j'ai vu quasiment 500 000 personnes en train de commencer à remettre en route cette ville qui a été détruite. Et quand j'ai discuté avec l'ensemble des dirigeants et l'ensemble des populations que j'ai pu rencontrer, c'est pas compliqué, ils ont tout perdu, tout ce qui est matériel. Ils ont même perdu tout ce qui était assurance des certifications, puisque les corps des ingénieurs avaient garanti que les digues allaient tenir, et puis elles n'ont pas tenu. Donc ils n'ont plus d'assurance mentale dans ce domaine-là. Mais ils ont décidé que la vie serait supérieure. Et ils ont vécu en survivance, pendant quasiment 6 mois. Et là, ils ont décidé aujourd'hui que la vie serait supérieure. Et la vie se reconstitue alors à la Nouvelle-Orléans, autour des paroisses, autour des communautés locales. Et c'est comme un maillage biologique, vous savez, qui se reconfigure. Un peu comme une forêt, vous savez, qui a été détruite. Et ce sont des petites espèces, une faune qu'on n'a pas connue jusqu'à présent, qui reprend le dessus, qui restabilise, mais avec un ancrage beaucoup plus fort.
Il nous faudrait un bon cyclone, alors, en France.
Bon, vous inquiétez pas, on est capable de les fabriquer, on n'a pas besoin de les demander. Non, mais je pense que, si vous voulez, je l'ai vécu aussi avec les Argentins. Les Argentins, dans ce travail de deuil qu'ils ont fait vis-à-vis de leur propre histoire, de leur propre situation, ont fait un énorme travail sur eux-mêmes. Et ils sont revenus sur cette quête du sens. Et cette quête du sens, je l'ai retrouvée en Louisiane il y a 15 jours, en discutant avec les gens.
Donc c'est la plus grande catastrophe que vous ayez vue, et en même temps la plus grande renaissance.
Ouais. Une formidable renaissance.
Et par la base,
étonnant,
si je vous écoute.
Par la base, pas par les élites.
Donc c'est là où on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure sur la prolifération d'ONG qui est aujourd'hui une
Ils servent à accompagner, parce que les élites ne comprennent pas ce qui se passe. Les élites n'ont pas aujourd'hui la grammaire de ces grandes modifications de nos sociétés. D'abord, ils sont très très loin. La plupart du temps, toutes ces élites sont très loin du terrain. Elles sont dans leur bureaucratie.
Alors que là-bas, vous disiez après Katrina, tout le monde était au même régime, aussi bien la base que les élites. Et ça aussi, ça joue.
Oui. Et par contre, ce que j'ai vu et qui m'a semblé être un élément extrêmement fort, si vous voulez, par rapport à ce qu'on risque de vivre dans les années qui viennent, c'est non pas l'émergence d'hommes providentiels, mais la révélation d'hommes qui ont de la profondeur et qui, en quelques minutes, en quelques heures, ont été capables de pouvoir drainer des énergies.
Et qui se révèlent dans des situations dramatiques.
Oui, qui se révèlent. Mais qui s'étaient déjà préparés. Tous les success stories que j'ai vus sur le terrain sont des hommes qui s'étaient préparés.
Nous allons poursuivre cet entretien avec Xavier Guillou, qui a choisi une chanson de Pierre Bachelet, une forme de prière.
Radio Notre-Dame.
Un simple merci, quand on indique une rue dans le matin gris, le sourire d'une inconnue, un parfum qui reste après qu'elle ait disparu, comme une fin de geste que la vie n'a pas prévu. Un malheureux chien qui vous suit sur un trottoir avec tant d'amour, tant de cœur dans le regard, et qui reste là à la porte de chez vous en sachant déjà que sa vie ne tient qu'à vous. Et c'est la chanson du bon Dieu, celle qui rend le cœur heureux, celui qui la chante au passage l'aura toujours en bagage. La main sur l'épaule, un inconnu qui vous dit la vie n'est pas drôle, mais c'est tout de même la vie. Un simple café qu'on vous offre, un comptoir, une partie de thé, quand dehors il fait si noir. Et c'est la chanson du bon Dieu, celle qui rend le cœur heureux, celui qui la chante au passage l'aura toujours en bagage. L'appel d'un ami, comme une île dans le silence, quelques graffitis sur un mur d'indifférence, deux ou trois accords, une guitare au carrefour, tant de choses encore qui s'accrochent au fil des jours. Et c'est la chanson du bon Dieu, celle qui rend le cœur heureux, celui qui la chante au passage l'aura toujours en bagage. Et c'est la chanson du bon Dieu, celle qui rend le cœur heureux, celui qui la chante au passage.
Cœur de métier, Inès de Warren, Olivier Jay. Alors Xavier Guillou, cette chanson du bon Dieu qui rend le cœur des hommes heureux. Est-ce que c'est comme ça qu'on prévient les risques, puisque vous êtes un spécialiste de la gestion des risques et notamment des nouveaux risques de nos sociétés?
Je pense que, vous savez, c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de crises majeures. Hein. Il faut renouer avec des mots simples et avec des convictions très fortes. C'est souvent l'exercice que je fais avec des grands patrons ou avec des grands dirigeants. Je leur dis, écoutez, le jour où, tant que vous avez des moyens, tant que vous avez l'électricité, des communications, etc., vous arriverez toujours à trouver dans votre panoplie ou des éléments de langage ou des solutions, enfin, la caisse à outils, quoi. Le jour où il n'y aura plus rien de tout ça, vous n'aurez plus d'électricité, plus d'eau, plus de téléphone.
Qu'est-ce qui vous restera ?
Qu'est-ce qui vous reste ? C'est quoi vos deux ou trois convictions majeures sur lesquelles vous allez fédérer toute l'énergie de vos hommes, mais pas que de vos hommes, des populations qui est autour ?
J'aime bien votre formule, vous disiez, il faut qu'ils passent de leur certitude à leur conviction.
Oui, c'est ce qui est le plus dur. Dans ce genre d'exercice, c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'on vit dans des sociétés qui, qui a fait derrière de tout le cholestérol bureaucratique ou technocratique dans lequel on s'est enfermé, qui a fait de l'empilage de couches de certitudes.
C'est quoi, vous, vos convictions ?
Moi, j'en ai déjà une première. C'est que j'ai beaucoup de chance d'être en vie. Et que la vie est un cadeau.
Vous vous dites ça depuis bientôt 50 ans, ou vous dites ça parce que vous avez échappé à quelques...
Du fait de mon existence, rencontré quelques moments difficiles, qui ont été des épreuves de santé, des épreuves liées au terrain que j'ai côtoyé.
Alors on peut en dire un mot, puisque vous avez été dans les services secrets.
Oui, mais c'est pas là où j'ai rencontré le plus de dangers, c'est après. Quand j'ai accompagné le commandement des opérations spéciales dans un certain nombre d'opérations chaudes depuis les années 90, et surtout en tant que responsable d'entreprise, parce que j'ai connu beaucoup plus de crises dangereuses en étant en entreprise ou dans le monde civil que dans le monde militaire, où là on est quand même relativement protégé.
Et vous avez connu vraiment des situations dangereuses en entreprise ?
Ah ben oui. Si vous voulez, je peux vous emmener dans un certain nombre de pays où... Vous retrouverez le sens des émotions.
Non, mais c'est pas...
plus que le sens des émotions.
Alors, première conviction, le bonheur d'être en vie.
Le bonheur d'être en vie. Et vous n'imaginez pas ce que ça peut être. Il y a tellement de gens qui se plaignent tous les jours alors qu'ils sont en pleine santé et que. Ils ont tout. Ils ont tout pour être heureux. Pour moi.
Une autre conviction, vous aviez envie de nous lire un extrait d'un texte. Vous avez choisi un texte qui est sûrement, vu le thème, c'est sûrement aussi quelque chose de fort chez vous.
Oui, c'est sur le courage.
Ben, on peut peut-être s'interrompre, de laisser la parole à votre invité, à vous.
Oui, en fait, c'est Jean-François Doniaux que j'aime beaucoup. Et il a écrit un papier qu'il a écrit alors qu'il traversait l'Atlantique, en vue d'un discours qu'il devait faire à l'Académie sur le fameux discours sur les vertus. Et il dit la chose suivante à propos des vertus, il disait... La cause est entendue, les vertus sont féminines. Elles sont sept, chacun le sait, trois théologales ayant Dieu pour objet, la foi, l'espérance, la charité. Quatre cardinales, du mot latin cardo qui veut dire gond, on le sait aussi, sur lesquelles tourne notre vie morale et sociale, la justice, la prudence, la force et la tempérance. L'étrange affaire, les vertus sont de sexe féminin, mais vertu vient du mot latin vir qui veut dire homme. La vertu, c'est d'abord le propre de l'homme, d'où le premier sens, courage. Considéré comme une sorte d'attribut viril. Erreur, les femmes ont toujours été au moins aussi courageuses que les hommes, sinon plus, et il y a tant de formes diverses de courage. Napoléon, jugeant ses maréchaux à Sainte-Hélène avec le recul de l'espace et du temps, met au plus haut, non pas les plus célèbres, grands chevaucheurs et sabreurs à l'audace éclatante, Murat, Ney, Lannes, dont pour lui il n'est pas assez difficile de charger au grand soleil à la tête de ses troupes dans l'excitation du combat. Il y a plus rare avoir du courage quand on est seul, qu'il fait froid, qu'il fait nuit, et plus particulièrement à la fin de la première moitié de la nuit, quand le jour passait si loin qu'on n'y croit plus et que le jour à venir tarde tant qu'on doute de l'aube. Ce courage de l'obscurité et de la solitude, Napoléon l'appelle de 2 heures après minuit, il dit aussi ailleurs de 3 heures avant l'aube. Il cite des noms bien moins célèbres. Ils ont eu le courage de ne pas désespérer, qui est aussi celui de savoir, vouloir, oser seul dire non. On traduira aisément en termes d'histoire contemporaine. C'est d'ailleurs le premier sens de la vertu. Je le rappelle, c'est la force d'âme.
Alors ça, c'est votre deuxième conviction que vous... Mais vous avez bien fait de laisser la parole à Jean-François Doniaux, qui dit les choses de manière très belle. Continuons les convictions de Xavier Guillou.
La troisième, je crois que... Enfin, pour moi, c'est la famille. C'est la famille. Toutes les épreuves majeures que j'ai traversées, les grandes décisions, je les ai prises à 3 heures du matin, tout seul.
Dans la deuxième moitié de la nuit.
Voilà. Mais je les ai prises avec toujours avec mon premier carré. C'est-à-dire, ce sont mes 3 femmes et ma famille au sens plus large.
3 femmes, c'est parce que vous avez 2 filles.
J'ai 2 filles et une superbe épouse à qui je dois beaucoup parce que vous ne traversez pas les décennies que j'ai traversées en première ligne comme je l'ai été sans avoir la confiance en backup derrière de gens solides. Et si vous n'avez pas la confiance, vous ne faites pas grand-chose. Et je dirais que ma quatrième conviction, c'est que la somme de tout ça, c'est l'amour. Si vous n'avez pas d'amour, si vous n'aimez pas les gens, et si vous n'en avez pas vis-à-vis des gens, vous ne faites pas grand-chose. Et je l'ai vu dans l'affaire de Katrina, ceux qui ont réussi, c'est ceux qui, quelque part, étaient dans ces registres-là. On avait des choses en commun, on avait des valeurs en commun.
Et quand on est dans les services secrets, c'est l'amour qui vous fait bouger ? Qui vous fait vous battre ?
Qu'est-ce qui me fait courir ? C'est d'une certaine manière, oui, j'ai été élevé dans une certaine... C'est un amour de mon pays. Je n'ai pas peur de le dire, même si ça semble ringard. Je pense qu'il faut cultiver certaines formes de ringardise aujourd'hui. J'aime la France, j'aime mon pays. J'ai été, comme disait Saint-Exupéry dans Pilote de guerre, je suis de France. Et même si aujourd'hui beaucoup le dénigrent, beaucoup n'y croient plus, etc., je reste toujours de France. Et je me battrai pour ce pays. Et je crois qu'il n'y a rien de plus noble et de plus fort que de servir. Pas de servir, hein, que de servir. Et pendant plusieurs décennies, j'ai été au service de mon pays et j'ai vécu des moments extrêmement forts avec des gens de très très grande qualité que les Français ne connaissent pas, ignorent, et qui font un boulot remarquable pour leur sécurité, pour leur confort, pour leur quiétude. Ce sont des gens qui ont de grandes valeurs.
Et la foi dans tout ça, Xavier Guillon, est-ce que la foi, ce serait, quand j'écoute vos convictions, est-ce que la foi, ce serait croire en l'amour ?
Oui. Oui, pour moi, oui. Oui, c'est pas, comme pour beaucoup, un pari. Non, c'est comme un fluide qui circule dans ma colonne vertébrale.
Et c'est ce qui vous permet aussi de... parce qu'en en vous écoutant, je me disais finalement, quand vous nous disiez « Le monde des crises, c'est mon quotidien », ça pourrait être totalement déprimant de vivre dans ce monde-là et de se dire « De toute manière, on n'échappera pas... »
Vous savez, mon grand-père était médecin, il côtoyait tous les jours des gens qui étaient malades ou qu'il fallait opérer, etc. Et vous pouvez très bien vous dire que c'est épouvantable comme métier. Non, je pense que il faut bien faire la différence.
Non, je dis pas que c'est épouvantable. Hein. Je pense que vous avez un métier passionnant, mais on pourrait être découragé, on pourrait avoir peur, on pourrait.
Jamais, parce que d'abord, un, j'aime la vie. Deux, c'est ce que je vous ai dit avec l'affaire de la Nouvelle-Orléans, la vie a toujours le dessus, quoi qu'il arrive. Elle a toujours le dessus. Et il faut travailler. Mon métier, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience de la Nouvelle-Orléans, qui est quand même le plus grand désastre que j'ai jamais vu depuis 30 ans. C'est cette notion de renaître, de remettre en mouvement, de remettre en cheminement des gens qui sont passés par des situations extrêmes.
Ce qui veut dire que malgré le tableau un peu noir de notre monde que vous avez dressé dans la première partie de cette émission, vous gardez des raisons d'être optimiste et lesquelles ?
Vous savez, quand vous faites l'audit de la situation, vous êtes automatiquement dans le pessimisme de l'intelligence. L'exercice de lucidité est terrible. Parce que vous alignez tous les chiffres, vous alignez tous les éléments et
vous allez nous citer Gramsci. Puisque vous commencez par le pessimisme de l'intelligence.
Moi, je suis résolument ancré dans l'optimisme de l'action. Je suis un homme d'action. Et ce n'est pas parce que je ressens un certain nombre de choses, que j'ai certaines intuitions, que pour autant, si vous voulez, je baisse les bras et que je suis défaitiste. Je suis pas de... C'est cette notion de force d'âme qu'évoquait Donio. Je suis marin, je suis passionné par la mer et par la haute montagne. Et quand vous êtes face à ces éléments-là, je peux vous garantir que vous pouvez très rapidement faire demi-tour et aller au port.
Et vous n'avez pas envie, vous avez envie d'aller à l'autre rive, port.
Sur l'autre rive. Sur l'autre rive, et puis quand vous êtes en haut d'un sommet, d'aller faire le sommet que vous voyez en face. Parce que ce sont des vraies aventures.
Xavier Guillou, espérons que la perspective que vous nous dessinez... on nous la verrons, mais que ça ne passera pas forcément par des crises graves que vous nous prédisez également. Donc, mais on retient surtout l'optimisme de l'action que vous nous avez distillé au cours de cette émission. Merci.
Merci.